Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 24 octobre. Avec vous, Jean-Luc Lucas, et au cours de cette émission, le journal, les sports, le personnage de la semaine et rencontre avec un reporter, écrivain et claquettiste de Sydney. Mais pour le moment, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche 24 octobre, un député libéral du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud fait appel pour une action climatique ferme de la part du gouvernement fédéral. 1935 nouveaux cas de coronavirus à nouveau enregistrés dans le Victoria ce dimanche. Et puis une campagne nationale est en cours pour cibler les restes de la population non vaccinée contre le coronavirus. Le trésorier de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu'il avait pris contact avec le Premier ministre Scott Morrison dans l'espoir que l'Australie jouerait un rôle de leader mondial dans l'action climatique. Le chef des nationaux, Barnaby Joyce, présidera ce dimanche une réunion pour discuter des réponses du Premier ministre Scott Morrison à la liste des demandes de son parti en échange de la confirmation d'un objectif net zéro. Le député libéral Matt Keane a déclaré sur l'ABC qu'il espérait que Scott Morrison s'engagerait à atteindre l'objectif de zéro net d'ici 2050 et tiendrait cette promesse au cours du sommet sur le climat COP26 à Glasgow la semaine prochaine.
The idea that you can have just a projection doesn't stack up for all of us who think that we should take climate change seriously and think that there are huge economic opportunities in doing so. A projection without a target for 2030 basically says we don't take climate change seriously or we don't trust our projections or the policies to get there.
Le chef adjoint du Parti national, David Littleproud, a déclaré sur Sky News qu'il espérait travailler sur une résolution déclarant qu'il s'agissait d'un processus respectueux jusqu'à présent.
So we're working calmly through this. You'll appreciate that just over a week ago, we got a look at the technology roadmap and our party room has worked as pragmatically, respectfully as we possibly could and we'll hopefully get to a resolution one way or another today.
Une campagne nationale est en cours pour cibler les restes de la population non vaccinée contre le coronavirus. Les publicités Spread Freedom seront diffusées à partir de ce dimanche soir, tandis qu'une campagne distincte visant à protéger les peuples des Premières Nations est également lancée. Le lieutenant général John Frohen affirme que près de 50% de la communauté autochtone est entièrement vaccinée contre le COVID-19.
Still a long way to go, but for the last fortnight now, the first dose rates for Indigenous Australians have exceeded the national first dose rates, which is very encouraging, and we're keen to continue with that.
Le Victoria a enregistré ce dimanche 1935 nouveaux cas de coronavirus et 11 morts à cause du COVID-19. Près de 70 000 tests ont été effectués au cours de la dernière journée d'hier et 73% de la population éligible est entièrement vaccinée. La force frontalière australienne a confirmé que le nombre de détenus, des réfugiés infectés par le COVID-19 dans un centre de détention pour réfugiés de Melbourne est passé à 20. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que des mesures de protection avaient été mises en place pour vacciner le personnel ainsi que des procédures de tests de dépistage.
We have the ring of containment around in terms of the protections that are put in place. We have the testing before and we have the testing during the course of quarantine.
La prochaine étape de la réouverture du Victoria prendra effet ce vendredi soir 29 octobre à partir de 18h lorsque l'État atteindra son objectif de 80% du vaccin COVID-19 unissant à la fois Melbourne et les régions rurales. Les changements de règles permettront aux habitants du Victoria de voyager à travers l'État pour le long week-end de la Melbourne Cup, une plus grande liberté de mouvement et plus de masques à porter à l'extérieur, sauf dans la foule. Le ministre de la Santé du Victoria, Martin Foley, a déclaré que la ville et le pays auront les mêmes règles car l'objectif de 80% de vaccins complets sera atteint.
Melbournians can travel to regional Victoria and indeed interstate, subject to those interstate rules again. I just also wanted to touch on vaccinations and seeing the vaccination milestones continue to topple at record rates as more and more Victorians come forward to both look after themselves, look after their community, but also to make sure that they can be part of this opening up.
En Nouvelle-Galles du Sud, 296 nouveaux cas de coronavirus acquis localement ce dimanche, après des avertissements concernant une augmentation de la transmission dans les bars et les gymnases. L'État a signalé 4 décès et 480 personnes infectées à l'hôpital, dont plus de 100 en soins intensifs. En Nouvelle-Galles du Sud, 93% de la population âgée de plus de 16 ans a reçu une dose du vaccin, tandis que 84% sont complètement vaccinés. Et le gouvernement a lancé une campagne pour stimuler le tourisme local. Écoutez le chef de l'État, Dominique Perrottet.
Vaccination has been an absolute game changer for New South Wales. The efforts that people have made getting us to where we are today means that we can open up, and we're at that point now. So the faster we move in a safe way, the better that's going to be for opportunity and prosperity for the people of our state.
Des manifestants ont défilé dans la ville de Geraldton, en Australie-Occidentale, après qu'un tribunal ait acquitté un policier d'une accusation de meurtre pour la mort d'une femme autochtone. La femme de la communauté Yamaji, âgée de 29 ans, connue sous le nom de Jessie pour des raisons culturelles, a été abattue par un policier en septembre de 2019 après avoir été vue portant un couteau dans une rue de Geraldton. L'officier qui a admis l'avoir tuée est sorti libre du tribunal vendredi après qu'un jury l'a déclaré non coupable de meurtre ou d'homicide involontaire. La sœur de Jessie, Bernadette Clark, déclare que la famille est brisée par la mort de sa sœur.
We want big time change. Me and my family. Left my nephew with no mummy. He got no mother now. Poor little boy. Let a man walk free. How weak can you be? You know, the jury up there had no Aboriginal people. They only had white men.
Ailleurs dans le monde, le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné à son ministre des Affaires étrangères d'expulser les ambassadeurs de 10 pays, dont la Nouvelle-Zélande. L'ordre de persona non grata s'applique aux ambassadeurs du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de la Norvège, de la Suède, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les précisions de Anne Andloer pour Radio France International.
États-Unis, France, Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Suède, Norvège, Canada et Nouvelle-Zélande. Sur ordre de Recep Tayyip Erdogan, les représentants de ces 10 pays ne sont plus les bienvenus en Turquie. Dans une lettre commune, ils avaient déploré la détention depuis 4 ans du mécène Osman Kavala, accusé d'avoir financé les manifestations anti-gouvernementales du parc Gezi en 2013 et d'avoir joué un rôle dans le coup d'État manqué de 2016. Où croyez-vous être ? Ici, c'est la Turquie, pas un État tribal, a lancé le président turc devant une foule de partisans. Avant d'ajouter, toujours à l'adresse des ambassadeurs, s'ils ne comprennent pas la Turquie, ils vont la quitter. Cette décision inédite pour ce pays membre de l'OTAN et toujours candidat à l'adhésion à l'Union européenne montre les limites de l'apaisement avec l'Europe et les États-Unis initié cette année par le pouvoir turc. Elle survient surtout à un moment où Tayyip Erdogan fait vibrer la corde nationaliste face aux difficultés de l'économie et à l'érosion de sa base électorale. Dans la même veine, le chef de l'État turc a menacé plusieurs fois ces derniers jours, de mener une nouvelle incursion militaire en Syrie.
En France, avec Anne Hidalgo, qui a présenté son projet de reconquête pour les présidentielles de 2022. C'était à Lille hier. Reportage Aurélien Devernois pour RFI.
Je suis prête ! Nous sommes prêts !
La voix déraille parfois un peu, mais la conviction semble enfin se faire entendre. Appelez-la désormais Anne avec un grand E comme école, État, écologie, Europe et surtout égalité.
Je veux être la première présidente de l'histoire de France parce qu'il est temps d'accomplir une grande avancée, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment au travail.
Alors que ses concurrents à gauche commencent à distiller leur programme, Anne Hidalgo a souhaité frapper fort avec des propositions concrètes.
En instituant un défenseur de l'environnement, un ISF climatique pèsera sur les ménages les plus aisés, dont d'ailleurs le patrimoine émet le plus de carbone.
Objectif, s'afficher comme une candidate d'une gauche regardant vers l'avenir, mais en assumant son passé.
Je pense bien sûr à Lionel Jospin, à François Hollande et aussi bien sûr à Ségolène Royal, première femme candidate de notre famille politique.
Car Anne Hidalgo, qui se voulait une candidate libre des partis, a dû finalement se rendre à l'évidence. Elle sera bien celle du seul parti socialiste.
À Londres, marche de soutien pour Julian Assange. Hier, à la veille d'une nouvelle audience la semaine prochaine, la justice britannique va examiner la demande d'extradition par les États-Unis du fondateur de Wikileaks. Précision de Sidonie Gaucher pour RFI.
Les mouvements de soutien à Julian Assange battent le pavé londonien, sur le parvis de la BBC et mercredi et jeudi prochain pour l'audience en appel devant la Haute Cour. La semaine prochaine est décisive pour le fondateur de Wikileaks. En attendant, journalistes, militants et politiques, dont Jeremy Corbyn, se rassemblent autour du tribunal populaire de Belmarsh pour demander à nouveau au gouvernement américain de suspendre les poursuites. Rappel des faits. En janvier dernier, Julian Assange avait remporté une première victoire puisque la juge britannique Vanessa Baretzer avait refusé son extradition en raison de sa santé mentale. Mais elle avait également refusé sa libération. Cela fait aujourd'hui 2 ans que le lanceur d'alerte est en prison dans l'est de Londres alors qu'il n'a pas été condamné. Si la demande d'extradition est finalement accordée la semaine prochaine, la peine de prison peut aller jusqu'à 175 ans pour espionnage. Mais si la Cour d'appel confirme la décision prise en janvier dernier, il sera alors très difficile pour les États-Unis de continuer à demander son extradition.
L'ancien ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a comparu devant un tribunal pour avoir refusé d'autoriser un navire espagnol de sauvetage de migrants à accoster en Sicile. Le chef du parti populiste risque 15 ans de prison s'il est reconnu coupable de son rôle dans l'empêchement du navire d'arriver dans un port italien. Son avocat, l'avocate Giulia Bongiorno, explique ce qui s'est passé lors de l'audience qui, selon elle, avait une analyse trop approfondie.
This is why among all documents you've heard today, in my opinion, there is a very important document. That is this very detailed analysis made by a judge that emanated a sentence. I remind all, that is definitive.
Près de 600 détenus ont été libérés d'une prison du sud-ouest du Nigeria lorsque des hommes armés ont attaqué le centre de détention. Il s'agit de la troisième évasion d'une prison au Nigeria cette année, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité et la nécessité de lutter contre la violence. Les autorités ont de nouveau arrêté certains détenus dans les États voisins, tandis que d'autres se sont rendus. Le chef du service correctionnel, Aylwan Noel, travaille pour le commandement de l'État d'Oyo.
Oh, they've gone searching for inmates, and in the last 2 or 3 hours, they've recaptured more than close to 300 inmates.
Page culture de ce journal avec le FESPACO 2021 et le film La femme du fossoyeur qui remporte l'étalon d'or. Le reportage de Guillaume Thibault pour RFI.
Et le lauréat de ce FESPACO 2021, c'est donc le réalisateur somalien Ahmed Kadar pour son film La femme du fossoyeur, un film tourné en 2021. L'histoire, Guled et Nasra, c'est un couple amoureux, ils vivent dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l'équilibre de cette famille est menacé. Pourquoi ? Parce que la mère de famille est malade, son mari, fossoyeur, n'arrive pas à gagner assez d'argent pour payer les frais de santé. Ce film relate cette bataille d'un homme pour sauver sa compagne, pour garder sa famille unie. Le réalisateur n'était malheureusement pas présent ce soir à Ouaga. Il gagne donc ce trophée prestigieux, l'étalon de Yenenga, le plus beau trophée du cinéma africain, a déclaré le président du jury du FESPACO 2021, Abderrahmane Sissako.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 28 degrés, Adélaïde 20, Melbourne 15, Hobart 13, Canberra 21, Sydney 21, Brisbane 35, Cairns 32, Darwin 35 et à Alice Springs, maximal de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce 24 octobre, un député libéral du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud fait appel pour une action climatique ferme de la part du gouvernement fédéral. 1935 nouveaux cas de coronavirus enregistrés dans le Victoria ce dimanche et une campagne nationale est en cours pour cibler les restes de la population non vaccinée contre le coronavirus. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot Ligue 1 en France hier avec Nantes qui a battu Clermont 2-1. Lille et Brest ont fait match nul, un but partout. Et puis ce dimanche, le classico PSG-OM à Marseille. Laure Lemay pour Radio France Internationale.
Devant le centre d'entraînement de l'OM pour accueillir les joueurs, Stéphane est clairement impatient.
Celui-ci, c'est un match hors norme pour nous. Et on mettra l'ambiance comme il le faudra. On attend un bon résultat de notre équipe et on va les pousser pour qu'ils aient la victoire.
Les groupes de supporters du Virage Sud, les South Winners et les Ultras prévoient d'étendre pour la première fois plusieurs tifos en même temps, ces grandes voiles déployées dans les tribunes.
Voilà, pose bien.
Rachid Zerwal, vice-président des Winners.
On veut leur montrer qu'on est encore en vie. Quoi. On a le sang chaud, on est méditerranéen, on a des grandes gueules. Tout supporter comme les joueurs qui rentreront dans ce stade, même les dirigeants, j'espère qu'ils auront la bave à la bouche, la rage marseillaise et qu'ils la ressentent.
Et l'accueil du PSG ne se fera pas en douceur, surtout lorsqu'il s'agit de Léo Messi. Écoutez Gilda, ce supporter de génération en génération.
C'est impossible de le voir avec ce maillot-là et il va prendre cher comme jamais. C'est encore plus que narguer quelqu'un. Quoi. Et notre haine sera à la mesure de notre amour pour l'Argentine et pour lui au final.
La victoire pour les Olympiens est vivement espérée mais incertaine car, on le rappelle, Marseille a remporté un seul des 23 derniers matchs contre le PSG.
On passe en Angleterre avec Chelsea, premier au classement, qui a écrasé Norwich, 7-0. Et puis la victoire de Manchester City, deuxième au classement, contre Brighton, 4-1. En Allemagne, la 9e journée marquée par la victoire du Bayern de Munich, premier au classement, contre Hoffenheim, 4-0. En Italie, 9e journée également avec l'AC Milan, premier au classement, qui gagne contre Bologne 4-2. Au Portugal, 9e journée avec le Sporting Portugal, 2e, qui a battu Moreirense 1-0. 1 milliard d'euros pour Ansu Fati, qui a signé avec le Barça jusqu'en 2027. Les précisions de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Ansu Fati est le joyau du FC Barcelone, 18 ans, né en Guinée-Bissau et naturalisé espagnol. Il a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2027 et sa clause libératoire s'élève maintenant à 1 milliard d'euros. Fati récupère même le numéro 10 de Lionel Messi, parti à Paris. Fati, c'est l'avenir du Barça et il s'en est réjoui hier lors d'une conférence de presse.
J'ai toujours rêvé de réussir ici, de continuer à grandir dans ce club et heureusement, je peux continuer à le faire. Je suis très reconnaissant pour cela et je vais travailler plus dur chaque jour pour essayer de m'améliorer en tant que personne et en tant que joueur, donner au club ce qu'il attend de moi. J'ai peut-être reçu des offres de l'étranger, mais j'ai toujours été clair sur le fait que mon rêve était de grandir ici et d'être capable d'y réussir.
Ansu Fati et le Barça qui ont un rendez-vous très important dimanche, ce sera le Classico contre le Real.
Seko Fofana de Lens, élu meilleur joueur de septembre en Ligue 1 en France. Les précisions de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Oui, c'est une belle récompense pour le milieu ivoirien du RC Lens. À 26 ans, il réalise un début de saison canon, comme son équipe, deuxième du championnat. Seko Fofana, indispensable au milieu pour ratisser, arracher les ballons et lancer les attaques. Il devance le Lyonnais Lucas Paqueta et le Niçois Amin Gouri dans ce vote qui est organisé par le syndicat des joueurs. Et dimanche, contre Metz, Seko Fofana et Lens auront l'occasion de conforter leur deuxième place avant un choc face à Lyon la semaine prochaine.
Foot féminin, la Coupe du Monde, les qualifications de 2023, 11-0 vendredi pour la France contre l'Estonie, comme nous l'explique Raphaël Rennes pour RFI.
Un détour par Créteil au sud-est de Paris, la soirée parfaite pour l'équipe de France féminine de football. 11 buts marqués, 0 encaissés face à l'Estonie en qualification pour la Coupe du Monde 2023. Une troisième victoire en autant de rencontres pour les Bleus. Couplé à un match nul du Pays de Galles face à la Slovénie un partout, voilà qui permet aux Françaises d'être seules leaders de leur groupe. Et la sélectionneuse tricolore Corinne Diacre, elle retient
les 3 points et on continue notre marche en avant vers la qualification pour la Coupe du Monde, tout simplement. La possession était tellement importante qu'on ne pouvait pas non plus concrétiser toutes nos actions, mais voilà, on est resté sérieuse, c'est l'essentiel.
Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, au micro de nos confrères de W9. Le prochain match, ce sera mardi.
On passe au tennis avec ce focus sur Once Jabeur, la Tunisienne, et désormais 8e mondiale au classement WTA. Analyse de Eric Mamrut avec une invitée spéciale, Eric Mamrut pour RFI.
La joueuse de tennis tunisienne est devenue cette semaine la première femme issue d'un pays arabe à entrer dans le top 10 mondial. Grâce à sa récente demi-finale au prestigieux tournoi d'Indian Wells, Once Jabeur se retrouve en effet 8e au classement de la WTA. La joueuse tunisienne de 27 ans est une vraie pionnière dans son sport. Première femme arabe quart de finaliste en Grand Chelem, c'était l'an dernier en Australie et encore cet été à Wimbledon. Première à remporter un tournoi, un titre WTA à Birmingham en juin dernier. Et donc ce cap du top 10 mondial désormais franchi avec brio. De quoi ravir sa devancière, son modèle, la joueuse tunisienne Selim Asfar, déjà une pionnière puisqu'elle avait été en 2001 la première femme arabe à entrer dans le top 100 mondial. Selim Asfar qui voit dans l'exploit d'Once Jabeur un message très puissant.
C'est tellement profond, c'est tellement riche, c'est beaucoup plus qu'inspirant, même c'est un message quelque part qui change radicalement l'image non seulement peut-être de la femme arabe, mais c'est surtout aussi pour les pays arabes de se dire que ce soit homme ou femme, parce que ça change aussi la croyance qu'ont aussi les hommes en général, c'est que c'est complètement possible d'avoir une femme arabe dans les meilleurs au monde, dans les meilleurs sur cette planète. C'est une énorme fierté et c'est surtout une porte ouverte, je dis une porte, c'est une autoroute ouverte même pour les enfants, pour les jeunes filles, pour les petits garçons aussi. Et c'est une croyance quelque part, c'est une graine qui a été mise là dans l'esprit de tous ceux qui regardent, donc la plupart du monde arabe et de la Tunisie, et du monde en général d'ailleurs. C'est une graine qui a été mise, qu'elle le dit souvent d'ailleurs, que si elle le fait, c'est que c'est possible que ce soit fait, et ça commence toujours par là. Donc voilà.
C'est vrai que même chez les hommes, par le passé, il n'y a pas eu de joueur arabe dans le top 10. Hein. Le mieux classé, Younes El Aynaoui, avait atteint la 14e place mondiale en 2003 et 2004. Pourquoi ça ne s'était pas produit jusque-là auparavant ?
Il y a beaucoup de raisons, mais la raison pour moi principale, c'est que comme ça n'a jamais été fait, dans les croyances et dans le subconscient et dans l'esprit, n'y a pas cette croyance. Et on sait très bien qu'on ne peut arriver à quelque chose que si on y croit vraiment. Ça commence quand même beaucoup par se dire « ça a déjà été fait, donc je peux le faire ». Et à partir de là, c'est vrai, ça fait vraiment boule de neige.
Pour expliquer cette progression dans ce Jabber, qu'est-ce qui fait que dernièrement, elle a réussi à passer ce cap pour intégrer le top 10?
Je pense à la confiance en soi. Ça, elle a été très régulière pendant plusieurs années maintenant. C'est ça aussi qui est important. C'est que ça fait 2-3 ans maintenant que petit à petit, elle commence à prendre graduellement cette confiance. D'abord, en allant de plus en plus loin sur les tournois, elle a commencé à gagner des matchs dans les tournois du Grand Chelem. Ensuite, elle a commencé à gagner des filles dans le top 50, dans le top 40, dans le top 30, de plus en plus dans le top 20, dans le top 10. Elle a continué à faire ça de manière régulière sur 2-3 ans. Voilà, il y avait le côté mental sur lequel elle travaille beaucoup avec une thérapeute du sport qui est incroyable, Mélanie Maillard, et qui l'a fait énormément progresser. Elle travaille beaucoup physiquement aussi pour pouvoir tenir et enchaîner tous ses matchs pour arriver à faire des demi-finales, des finales, et ainsi de suite pour gagner plus de points. Et c'est là quand même la joueuse qui a joué le plus cette année. Et la confiance en soi. Donc, c'est cette maturité, quelque part, de cette confiance et de cette expérience qui fait que... et qu'on arrive au top 10.
Et puis, à signaler que le Grand Prix de Formule 1, c'est ce dimanche aux États-Unis. Le Grand Prix de MotoGP, c'est ce dimanche en Italie. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur une personnalité en lien avec l'actualité. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur Colin Powell.
Colin Powell, oui, ancien chef d'état-major de l'armée américaine de 1989 à 1993, et plus tard, nous le verrons, secrétaire d'état américain, autrement dit chef de la diplomatie américaine de 2001 à 2005 sous la présidence de George W. Bush. Colin Powell s'est éteint lundi 18 octobre. Il était âgé de 84 ans. Il s'est éteint des suites de complications du Covid-19. Il était vacciné, mais souffrait par ailleurs d'un cancer du sang et son système immunitaire était très diminué. Colin Powell s'est éteint à l'hôpital militaire Walter Reed de Bethesda, dans le Maryland. Alors nous allons revenir sur sa longue carrière dans l'armée, carrière politique. Son nom résonne au-delà des frontières américaines. Il s'est en effet retrouvé au centre des grandes crises internationales au tournant des années 90, au tournant des années 2000. Et il portait en cela la voix à l'extérieur de l'Amérique. La presse internationale, à ce titre, lui a rendu hommage ces derniers jours. Hein, les journaux américains, bien entendu. USA Today salue un guerrier, un diplomate et un grand américain. Le Washington Post, de son côté, met en avant, je cite, un homme d'État et un guerrier pionnier. En Espagne, El País parle de Colin Powell comme d'une figure clé des deux guerres en Irak. Le journal Le Soir en Belgique rappelle son brillant passé militaire, entaché, souligne toutefois le journal, par l'Irak. Nous allons y revenir, hein, l'Irak et les informations erronées, truquées de l'administration américaine pour justifier la deuxième guerre en Irak, les prétendues armes chimiques qu'aurait détenues Saddam Hussein. Colin Powell s'est retrouvé au centre de cette manipulation. Il a été manipulé par les faucons qui voulaient la guerre, nous explique Le Soir, le journal belge. The Times of Israel évoque la mémoire de Colin Powell en saluant là un ami d'Israël, ou encore le journal russe Kommersant, qui résume les deux visages de Colin Powell avec ces mots, un symbole de la puissance militaire américaine et en même temps des des erreurs et des faiblesses, un symbole de la puissance, mais aussi un symbole des erreurs et des faiblesses de Washington.
Qui était au juste Colin Powell? Revenons avec vous sur ses origines, sur son histoire.
Colin Powell, il est né à Harlem, à New York, en 1937, né dans une famille d'immigrants jamaïcains. Il sera le premier afro-américain a occupé à la fin des années 80, sous la présidence de Ronald Reagan, le poste de conseiller à la sécurité nationale. Précurseur, il suivra un temps certes des études de géologie, mais très vite c'est dans l'armée qu'il se révèle et qu'il monte en grade. Il entre ainsi dans les forces armées des États-Unis en 1958. Il sera affecté tout d'abord en Allemagne au début des années 60, puis il servira à l'armée américaine au Vietnam. Il sera blessé au pied, une infection qui l'obligera à rentrer dans un premier temps aux États-Unis. Mais il retournera en mission au Vietnam, Colin Powell, où là il survivra à un accident d'hélicoptère et il aidera à sauver certains de ses camarades. Des décorations, des médailles, des actes héroïques. Il devient au tournant des années 90 chef d'état-major des armées sous l'administration de George Bush, père. La première guerre du Golfe arrive, médiatisée dans le monde entier, via CNN notamment, hein, cette guerre gagnée par les forces américaines et leurs alliés contre Saddam Hussein. Loyal, discipliné, Colin Powell a été un modèle d'intégration sociale dans l'armée américaine. Lui, qui était donc noir de peau et qui, en privé, était un grand admirateur de Martin Luther King. La lutte de Martin Luther King dans les années 50 pour les droits civiques des Américains. Ses idées politiques, sa sensibilité à Colin Powell le situaient plutôt du côté des démocrates, hein, mais c'est sous des administrations républicaines, les présidences Bush, père et fils, qu'il s'est retrouvé, de par ses fonctions, eh bien, au centre de l'actualité. On l'a dit, chef d'état-major des armées au moment de la première guerre du Golfe dans les années 90. Et en janvier 2001, sa carrière qui devient carrière politique, puisqu'il devient secrétaire d'État, autrement dit ministre des Affaires étrangères, choisi et nommé par George W. Bush. George W. Bush, Bush fils, le républicain. Il devient ainsi, Colin Powell, le premier afro-américain à occuper ce poste de secrétaire d'État.
Colin Powell se retrouve ensuite au centre d'une polémique quant aux preuves apportées par les Américains pour justifier leur deuxième intervention en Irak.
Oui, cet épisode l'a durablement marqué, même s'il n'a jamais cherché par la suite à accuser nommément ceux qui l'avaient poussé à tenir ses propos. Mais il a dit son amertume et c'est pour cela qu'en janvier 2005, il a demandé à George Bush Jr., qui venait d'être réélu pour un second mandat, de quitter son poste de secrétaire d'État. Colin Powell, qui a été indirectement manipulé, même s'il s'est retrouvé en conscience à prendre la parole à l'ONU, mais il a dû effectivement justifier l'intervention américaine en Irak et il n'était pas dupe quand il a avancé ses arguments de fausses preuves à la tribune de l'ONU, ce fameux discours de février 2003 où devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Colin Powell a présenté le dossier qui, selon les Américains, prouvait que Saddam Hussein et l'Irak possédaient des armes chimiques. Il y a cette image de Colin Powell tenant dans sa main droite une capsule d'anthrax, des armes chimiques, des armes de destruction massive, prétendument détendues par l'Irak. Il s'est avéré par la suite que ces preuves avaient été fabriquées de toutes pièces. La Grande-Bretagne et les États-Unis voulaient coûte que coûte intervenir en Irak. Hein, les faucons, notamment ceux qui avaient été à la manœuvre lors de la première guerre d'Irak, qui ne supportaient pas que Saddam Hussein soit toujours là au pouvoir et qui voulaient en finir une bonne fois pour toutes avec le dictateur irakien. Il fallait pour cela obtenir l'aval de l'ONU et de la communauté internationale. En 2013, Colin Powell, qui en 2008 et 2012 a soutenu Barack Obama, le démocrate à la présidence américaine. Colin Powell a admis donc bien plus tard dans une interview que le régime irakien de Saddam Hussein ne possédait pas d'armes de destruction massive. Saddam Hussein arrêté en Irak une fois que l'opération a été lancée par les forces spéciales américaines, arrêté en décembre 2003, jugé ensuite pour crime contre l'humanité et pendu le 30 décembre 2006. Colin Powell, malgré cet épisode, eh bien, laisse l'image auprès des Américains, de l'opinion publique américaine, mais aussi des diplomates étrangers qui l'ont côtoyé, l'image d'un homme franc, droit, direct, un homme qui dégageait une autorité naturelle. En 2016, Colin Powell avait appelé à voter pour Hillary Clinton contre Donald Trump. 4 ans plus tard, il a soutenu Joe Biden pour barrer la route à un second mandat de Donald Trump. Serviteur de l'État pendant des décennies, comme son ami Joe Biden, finalement élu à la présidence et actuel président des États-Unis. Joe Biden, né 5 ans après lui. Les deux hommes, Colin Powell, Joe Biden, avaient une passion commune, au-delà de la diplomatie, la passion des voitures de sport.
Merci Émile pour ce focus sur notre personnage de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir sur les ondes de Radio SBS Ruby Bukabu. Bonjour à vous.
Oui, bonjour, merci. Bonjour à vous.
Alors, peut-être pour nos auditeurs, présentez-vous et dites-nous qui vous êtes sur le plan professionnel. Vous êtes reporter, écrivaine, interprète et tout ça.
Oui, donc je travaille dans deux domaines principaux. Je suis journaliste de voyage, de culture. Donc je fais beaucoup de choses en France. J'ai posté pour SBS avant et plein de différents médias pour les festivals de films, comme le Festival de Cannes. Je fais les reportages sur les Australiens en France et les Français. Et ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de journalisme de voyage. Ça, c'est en partie de ce que je fais. Et aussi, je suis claquettiste. J'ai fait les claquettes, le cabaret en France, un peu partout. Et puis à Sydney, à ce moment, j'ai un spectacle, Paris by Night. Et récemment, je viens de sortir mon deuxième livre, The Architecture Lover's Guide to Paris.
Oui, parlons-en.
Oui, du coup, en fait, c'est le deuxième livre sur une série. Le premier, c'était The Art Lover's Guide to Paris.
Oui.
C'est pour un éditeur anglais qui s'appelle White Owl. Et puis, en fait, pour le deuxième, j'étais... Normalement, moi, je rentre en Australie en décembre. J'aime pas l'hiver en France. C'est trop froid pour moi. Du coup, je rentre pour l'été australien. Et puis, je retourne en France, vers avril. Parce qu'il fait plus chaud. Et puis après, c'est le festival de Cannes. Et puis, c'est l'été. Donc, c'était juste avant ça. C'était l'incendie de Notre-Dame. Et j'ai mon éditeur qui m'a demandé si je veux peut-être écrire un bouquin sur ça. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche. Et j'ai écrit un petit résumé.
Oui, en anglais.
Oui, et puis je suis rentrée en France, je suis allée au Festival de Cannes. Après, j'ai cherché un projet à faire. On a discuté peut-être ce projet, Et puis il a dit, peut-être c'est mieux d'avoir un livre sur toute l'architecture de Paris.
Et donc ce livre vient de sortir en 2021?
Oui, ça vient de sortir. En fait, j'ai fini le livre, c'était juste avant le Covid. Du coup, moi, et c'était pendant les grèves de métro. Du coup, j'ai marché partout à Paris. Et ça, ça vient de sortir maintenant. C'est sorti, ça fait quelques mois. Et on peut trouver dans le monde entier, et surtout en Australie, dans toutes les librairies. Pour les gens qui peuvent aller à Paris, mais aussi pour les gens qui peuvent lire à la maison, j'ai fait beaucoup de photos dans ce livre.
Donc, les photographies sont de vous-même?
Oui, j'ai fait un tiers de photos. Peut-être une moitié de les photos, c'est le mien. Et c'est ça que j'ai aimé aussi pour découvrir la ville, le lieu que je connaissais, mais ça m'a donné une opportunité pour aller découvrir un peu plus avec mon caméra et mon carnet.
Et donc, Ruby, c'est 224 pages de guide pour les amoureux des jolis bâtiments de Paris. Et il y a un chapitre que vous dévouez aux voyageurs, par exemple, qui n'ont que 36 heures à voir Paris. Alors, que proposez-vous de visiter en 3 jours?
C'est 3 jours quand même très chargés. Après, vous avez besoin de dormir pour 3 jours après. Mais j'ai fait la visite d'un de mes bâtiments préférés, c'est l'Opéra de Paris. C'est magnifique, j'adore. Il y a une promenade dans le Bûcheron, c'est mon parc préféré. Et on visite la mosquée de Paris, qui est magnifique aussi. On visite le Tour Eiffel, mais par bateau. On peut faire un guide en bateau qui commence du canal. On va en sud du canal, on passe par la Bastille, et puis on passe par le Tour Eiffel et plein d'autres monuments. C'est une façon très sympa pour voir la ville, je trouve. On prend un repas, un cocktail à la Terrace Hotel à Montmartre. Qui est vraiment, on voit toute la ville, c'est vraiment belle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de choses, on fait un peu de shopping dans les grands magasins. On découvre un petit peu l'histoire de tout ça. Et plein de choses, quoi d'autre?
Et donc, Ruby, combien de temps cela vous a pris pour ce projet d'écriture? Quelques années, j'imagine?
En fait, ça fait moi je suis allée à Paris en 2005 pour finir mon maître en théâtre. Et puis depuis là, j'ai fait les allers-retours. Donc depuis tout ce temps, j'ai écrit les articles pour les voyageurs, comment apprécier mieux Paris, si on a seulement 2 jours, comment faire les trucs vraiment intéressants, pas juste les trucs typiques. Donc, ça fait dans tout ce temps que j'ai vécu à Paris, que j'ai écrit les articles, que j'ai dansé dans le cabaret, que j'ai fait les marches, j'ai pris les petits astuces ici et là-bas. Et puis, pour ce livre, j'ai pris 6 mois j'étais à Paris, j'ai recherché dans le Paris, j'ai fait les interviews avec les architectes, j'ai marché beaucoup, et puis j'ai écrit, du coup ça fait 6 mois là, et puis je suis rentrée en Australie, et puis c'était le Covid, du coup j'ai pris quand j'étais en train de faire pour éditer. Du coup j'ai ajouté plein de détails pour les gens qui ne peuvent pas visiter Paris, qui, comme ça ils peuvent visiter avec le livre. Du coup, une année d'écrire les livres, mais beaucoup plus de temps derrière en recherchant avec le temps vécu à Paris.
Et donc, vous avez donc vécu les 18 derniers mois avec ce confinement cloué à Sydney.
Oui, mais en fait, c'était pas mal parce que j'ai J'ai un jardin de fleurs, légumes magnifiques. Normalement, je bouge trop que je peux pas faire les légumes et manger les manger. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé de faire le spectacle ici, Paris by Night. C'est un cabaret avec Courtney Severini et Mark Harris à Claire's Kitchen. Donc, on était en train de faire ça et puis ça s'est arrêté avec le confinement. Du coup, en fait, j'ai fait un petit clip avec mes amis claquettistes de Paris. Et puis, on a fait un clip de claquettes avec tous les claquettistes qui font les claquettes dans chez eux.
Oui.
de Pont-à-Rose. Donc, c'était un truc de fait. Et ça, c'était assez drôle. On a fait une chorégraphie avec le Paris Tap Crew. C'est mon compagnie à Paris. Et on a, je pense, on a 35 danseurs de claquettes de tous les niveaux qui dansent. On délire dans son appartement, dans son garage, tout ça. Et du coup, j'ai fait ça. C'était pas mal. J'ai donné le coup de claquette quand même sur Zoom. Qui, finalement, je pensais que ça va être un peu difficile, mais finalement, ça va. Et j'ai commencé à écrire un autre livre, un roman. Oui. Donc, je suis sur ce projet à ce moment. Et je commence de penser à Paris pour l'année prochaine. Et entre-temps, elle a le spectacle qui recommence très bientôt en novembre. On recommence Paris by Night à Claire's Kitchen. Et je pense que c'est complet, mais on va organiser les autres dates pour que le public peut visiter Paris à Sydney.
et comme passe-temps, Ruby, je vois que vous aimez la pêche, c'est ça?
Oui, oui, comment vous avez vu ça?
En parcourant les images que vous avez envoyées.
Oui, mais je ne sais pas quelle image, mais oui, je suis bien. L'autre truc qui était pas mal quand je suis en confinement à Sydney, j'ai la chance d'être à côté de Rivière de Hawkesbury.
Oui.
Du coup, c'est quand même magnifique d'aller marcher dans le bush, aller dans le... avoir les grands espaces et les rivières. Et ça, c'est le genre de truc qu'on... Avant, je pensais que les maisons aussi, c'était pas très grande. Mais après Paris, on a apprécié beaucoup d'espace. On a un petit lieu dans le jardin. On pense, si j'étais à Paris, je vais un lieu comme ça dans mon jardin. Je vais... Du coup, j'apprécie l'espace en Australie beaucoup depuis que je suis entrée à Paris.
Allons parler de vos projets pour 2022. Est-ce qu'il y aura d'autres concerts que vous allez présenter, d'autres spectacles?
Oui, j'espère qu'on va refaire ce spectacle. Moi, je veux bien qu'on fasse. On va refaire Claire's Kitchen. C'est un endroit très sympa et c'est super que les gens peuvent manger un bon repas français et voir le spectacle en même temps. C'est vraiment chouette. Du coup, on voit les autres dates là-bas. Et puis aussi, je souhaite le booker à Blue Mountains, Newcastle, Hunter Valley, pourquoi pas dans les autres villes, à Melbourne, Perth, Brisbane, Canberra. Donc, j'espère que les choses vont être ouvertes pour on peut faire ça pendant l'été.
Eh bien, merci Ruby d'être intervenue sur les ondes de SBS French. Je rappelle que vous venez de publier ce livre « The Architecture's Lover's Guide to Paris ». Et avant cela, il y avait « The Art Lover's Guide to Paris ». Et on peut trouver les détails sur votre site internet, j'imagine.
Oui, c'est rubytv.net, donc rubytv.net. Et tout est là. Aussi Instagram, c'est RubyTV, Facebook, RubyTV avec un IE, comme la vie. RubyTV sur Facebook. Et sinon, vous pouvez trouver dans toutes les librairies en Australie et sur ligne.
Merci encore une fois et à très bientôt sur SBS French.
Merci à vous. Au revoir.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce dimanche 24 octobre. Un député libéral du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud fait appel pour une action climatique ferme de la part du gouvernement fédéral. 1935, un nouveau cas de coronavirus enregistré dans le Victoria ce dimanche. Et une campagne nationale est en cours pour cibler les restes de la population non vaccinée contre le coronavirus. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et je vous laisse avec Ronnie, Théophile, les comédiens. Belle journée.
Voix confondues, les coquins, dans une histoire un peu triste, tout, tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste ou rire avec les heureux. Poussez la toile et venez donc vous installer sous les étoiles, le rideau va se lever.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.